Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemel. Bonsoir Ravelli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors, on continue comme on le fait avec vous chaque semaine à survoler notre paracha, qui est le passage que l'on lit dans nos communautés chaque Shabbat, chaque samedi. Et donc là, on arrive à Nassau. Et Nassau est connu pour être la paracha de la fameuse Sota. Mais vous avez envie de réfléchir sur autre chose, car évidemment, cette paracha, comme toute, est extrêmement riche. Et il y a aussi l'explication des Nessiim. Les Nessiim sont à la fois des... Enfin, on va dire les chefs de tribu, mais parce que... Bon, il y aurait beaucoup à dire simplement sur ce qu'est un assis, mais voilà, les chefs de tribu viennent et apportent tous le même corban au temple. Je ne vais pas faire la dracha à votre place, mais pourquoi est-ce qu'on nous donne à chaque fois le même corban pour chacun de ces chefs de tribu, et on veut forcément nous dire quelque chose? Vous y avez vu, vous, l'importance de préciser la singularité de chacun? Et là, on vous attend avec beaucoup d'impatience.
Oui, en effet, c'est vrai que la parachat Nassau est très connue par comme ça toute une série dans laquelle on dit la même chose, si ce n'est qu'il y a une petite différence. On nous parle de l'inauguration, des offrandes que vont amener les Nessim, les princes d'Israël. Et ils vont amener donc des corbanotes, un certain nombre d'offrandes, et pour chacun, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah va s'arrêter et répéter 12 fois la même chose, et à la fin, elle va dire « et le total, ça fait tant et tant ». Donc on a « Vayehi Amakriv, Vayehi Harishon », et ce fut celui qui a amené l'offrande le premier jour. On cite son nom, on cite sa tribu, « Korbano, Karat Kesef Achat », et son korban, son offrande, « Karat Kesef Achat », là, on va dire une coupe en argent, Shloshim Omea Mishkala, Mizrak Echad Kesef, Shivim Shekel, enfin, je ne vais pas vous faire tous les psukim, et après, Vayehi, Bayam, et ce fut le second jour, et le troisième jour. Et donc, chaque fois, on nous dit, voilà, le prince s'appelle X, mais Korbano, son offrande, on va redire exactement la même chose. Alors, évidemment, il y a ici quelque chose qui nous interroge, et un des éléments qui est le plus surprenant, c'est que la Torah qui, quand même, sur des enseignements fondamentaux, ne dit parfois que quelques mots, eh bien, ici, va s'étendre, alors qu'on aurait très bien pu imaginer la Torah nous dire, eh bien, ce fut le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, monsieur X, Y, Z, W, et chacun d'entre eux veut kolechad, et chacun a amené karat kesef achas, ce qui fait en tout cela. Ça aurait été autant compréhensible, et quelque part, on aurait peut-être économisé du texte, si tant est qu'on puisse s'exprimer de cette manière. Alors, évidemment, il y a bon nombre de lectures sur ce texte. D'ailleurs, si vous ouvrez le Midrash, il partage énormément de lectures différentes suivant les corbanotes des Nessim, des offrandes des Nessim, mais on a peut-être ici l'idée suivante. Vous savez, lorsque, à Kadosh Baruch Hu, lorsque Dieu a donné au peuple d'Israël la Torah et les Mitzvot, eh bien, quand vous allez dans une synagogue le matin, vous voyez que tout le monde dit les mêmes mots. Tout le monde met les mêmes téfilines, tout le monde met le même talit. Alors le talit est plus ou moins grand, les téfilines sont plus ou moins grands, mais au fond les actes sont les mêmes, mais strictement les mêmes, identiques. Et on pourrait s'interroger, se dire, mais au fond c'est quoi cette assemblée d'individus qui font les mêmes gestes, qui disent les mêmes mots, qui font les mêmes actes? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'il y en ait un qui soit là, le représentant de l'Assemblée, et puis tout le monde est derrière, et puis dit amen, ça serait très bien peut-être. Et c'est là où nous allons ouvrir un petit peu plus l'univers de la Kabbalah, qui va nous dire la chose suivante, c'est que, eh bien pas du tout. Il faut savoir que lorsque je fais, vous faites, chacun d'entre nous fait le même acte, la même mitzvah, au-delà de ce qu'il peut nous apporter à nous en tant qu'individus, au-delà de ce que cela va nous transformer à nous-mêmes, parce que n'oublions pas que l'acte de la mitzvah, c'est un vecteur de transformation et c'est un vecteur d'élévation. Mais au-delà de ça, cette mitzvah n'a plus le même impact en fonction de l'individu qui l'a fait. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, lorsqu'il fait la même action, crée quelque chose qu'il n'y a que lui qui peut mettre en place dans l'univers. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui fait cette action et personne d'autre. Souvent les personnes voient en effet dans l'acte de la mitzvah un acte rituel que l'on va faire et qui va nous amener, allez, on va utiliser le mot, une récompense qui va nous apporter quelque chose en tant qu'individu, mais on oublie qu'au fond, l'acte de la mitzvah participe de la construction de l'univers. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été dit à Adam et à Ève, lorsque Dieu les avait mis dans le fameux jardin d'Éden, le Ovda ou le Chambré, il l'avait mis dans le jardin d'Éden pour qu'ils le servent, littéralement, ou le Chambré pour qu'ils le gardent. Alors le Ovda, c'est-à-dire pour qu'ils le travaillent. Et la question se pose évidemment, mais attendez, dans le jardin d'Éden, a priori tel qu'on l'a compris, il n'y a strictement rien à faire. Et le Midrash nous dit bien qu'Adam et Ève sont là et n'ont rien à faire. Alors le Ovda ou le Shomra, disent nos maîtres, c'est pour pouvoir y accomplir les commandements. Aussi bien se préserver des interdits que l'obligation de faire des commandements positifs. Alors ça veut dire quoi, très sincèrement, au niveau de Adam et Ève ? C'est un peu plus compliqué que ce que l'on peut croire, parce qu'il renferme à l'intérieur d'eux les âmes de la totalité du peuple d'Israël. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, eh bien, ils vont participer de la création de l'univers, de son accomplissement, à travers le fait qu'ils accompliront les mitzvot, ils n'iront pas jusqu'au bout, et chacune et chacun d'entre nous, justement, en faisant une mitzvah qui est la même que celle de l'autre, va créer quelque chose dans l'univers spirituel qui n'appartient qu'à lui. Et je crois que peut-être une des grandes difficultés que nous avons, c'est de ne pas avoir cette conviction profonde qui nous habite. Au fond, on se voit parfois peut-être un petit peu trop petit. Le propre des tzadikim, le propre de ce que l'on appelle les gens justes, c'est qu'ils ont parfaitement conscience que, en tant qu'individu, chacun d'entre nous doit créer quelque chose de particulier à travers le même acte de mitzvah, et ils le font avec cet état d'esprit, cette intensité, et c'est cela peut-être aussi le principe de la singularité. La singularité, c'est pas juste quelque chose qui est visible de par nos potentialités particulières, de par nos dons particuliers, de par le fait que nous ne ressemblons à personne. Évidemment, elle se situe là, mais elle se situe aussi dans le fait que nous sommes un être unique et qui allons, à travers le même acte qu'un autre va faire, créer quelque chose de radicalement différent dans les mondes spirituels. Et vous savez, cette idée de singularité, au fond, elle a éveillé chez moi une réflexion, non pas au niveau de l'individu, mais au niveau du collectif, ce que j'appellerais la singularité du peuple d'Israël. Aujourd'hui, de manière très intéressante, vous voyez fleurir de partout, et c'est très intéressant à lire souvent, eh bien des textes dans lesquels on s'interroge sur cette dimension tellement particulière dont on traite le peuple juif aujourd'hui à travers ce qui se passe en Israël. Vous avez bon nombre de personnes qui disent mais c'est pas normal, et qui mettent face à ce qui se passe en Israël, les autres conflits et des choses éminemment plus dramatiques, plus graves que celles d'un peuple qui se défend par rapport à des agresseurs qui veulent détruire sa population civile. Et on est là et alors tout le monde est là et s'élève avec force contre cela et considère que c'est inacceptable. C'est fort bien. Mais la question, elle est la suivante. Et pourquoi au fond ? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de là, nous sommes prêts à créer une réflexion et se dire, mais donc nous nous rendons bien compte que le peuple d'Israël a une singularité. Il a une particularité totalement incompréhensible au niveau de la logique, parce que Israël, pour reprendre juste la vision politique des choses, c'est une démocratie, c'est un lieu dans lequel tout le monde a le droit de s'exprimer et on voit ô combien et jusqu'à où ça va aller, ce que j'appellerais la dimension pervertie de la démocratie, mais ça c'est déjà un autre sujet. Et donc, c'est pas normal. Or, nous voyons bien cette singularité. Donc, qu'est-ce que cette singularité veut dire ? Et vous savez, être dans sa singularité, c'est s'interroger sur sa responsabilité particulière et au niveau individuel et au niveau collectif. Qu'est-ce que l'on attend du peuple d'Israël ? Qu'est-ce que l'on attend de moi en tant qu'individu ? Qu'est-ce que l'on attend de ce peuple ? Qu'est-ce que Dieu attend du clan Israël dans le monde, puisque cette singularité est révélée par la manière dont les nations du monde se comportent vis-à-vis du peuple d'Israël. Alors évidemment, il faudrait en prendre conscience peut-être d'abord en explorant la spécificité du peuple juif, non seulement dans son histoire, non seulement dans sa tradition, non seulement dans ses textes, mais parfois on oublie de le faire. Alors les nations du monde sont là et nous le rappellent, malheureusement. Elles nous le rappellent de manière parfois assez bouleversante, et peut-être qu'il serait intéressant de se dire, donc si singularité il y a, ça veut dire qu'il y a responsabilité particulière, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il n'y a que nous qui pouvons créer dans l'univers et que nous devons créer. Quelle est cette chose? Évidemment, quand vous regardez les textes de la tradition juive, eh bien, c'est d'être Mekadesh Shem Shamaim, c'est-à-dire de sanctifier le nom de Dieu, de révéler à l'univers que le fait qu'il est un créateur, eh bien, ça a une incidence sur la vision que l'on a de l'existence dans tous les domaines. Et donc, évidemment, ça nous amène à voir un vécu, une gestion des priorités et un regard sur la vie qui est particulier, spécifique et que l'on se doit après de partager. Voilà un petit peu ce à quoi, en tout cas, ce texte m'amène à réfléchir. Et c'est vrai que cette singularité, elle est au niveau des Nessim, elle est au niveau des princes. Parce que, en effet, on pourrait s'imaginer que lorsque nous sommes dans le même groupe, alors, étant dans le même groupe, on est tous un petit peu les mêmes. Et puis, le texte nous dit, ben non, pas du tout. Il y a des Nessim, ils sont a priori tous identiques, ils ont tous la même fonction, mais quand chacun va faire son corban, il amènera quelque chose de particulier. Et le texte après nous dit, et tous les Nessim, eh bien, ensemble, ça fait quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il y a non seulement la singularité, dans le sens où mon action va créer quelque chose de particulier, votre action va créer quelque chose de particulier, chaque action va créer quelque chose de particulier, mais toutes nos actions ensemble créent aussi quelque chose de particulier à l'échelle de l'univers. Ça crée, comme je vous l'ai dit, une réflexion sur notre responsabilité et sur l'enjeu de ce que va représenter notre vie. Mais au fond, quel bonheur! Quel bonheur de prendre conscience de cela et de savoir vivre son quotidien dans cet état d'esprit.
Le dur bonheur d'être juif. Ce sera le sujet de notre réflexion. Rav Eli Lemel, merci pour cette dracha. Je vous souhaite un grand et beau Shabbat plein de soleil et on va se souhaiter à nous tous qu'il soit plein de paix, plein de shalom. Shabbat shalom, Rav Eli Lemel.
Shabbat shalom.
Et on part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Omevorach.
Rav Mordechai, on va parler avec vous de la Sota, puisque c'est l'objet de notre paracha, mais sous un angle particulier. Vous voulez insister sur le fait que, selon la manière dont on regarde les choses, eh bien, ceci ne nous donne pas seulement des informations, ceci influe en retour sur notre propre personnalité.
Alors effectivement, la paracha nous raconte le sort qui était livré donc à la femme Sota, cette femme qui avait eu des relations extra-conjugales, et le cérémonial auquel elle était soumise. Et nos sages nous disent qu'une personne qui assiste à la dégradation de la femme Sota devait en retour des choses s'abstenir de boire du vin. Pourquoi ? Parce que cette femme et l'homme avec laquelle d'ailleurs elle s'était livrée à ce commerce charnel extra-conjugal, eh bien, tout avait commencé sur de la légèreté, sur du vin. Tout avait commencé certainement sur la liesse d'un repas arrosé. Et donc, ce qui finalement conduit à la débauche, ce qui conduit à la destruction de la cellule familiale, il faut savoir s'en abstenir. Donc, ce que nos sages nous disent ici, c'est que celui qui assistait à ce spectacle, il n'était pas tenu d'assister à ce spectacle. Mais s'il était au Beth Amikdash au moment où ce spectacle se produisait, il devait en tirer des conclusions personnelles. Et donc, il devait modifier son comportement. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a vu là, ce qu'il a vu doit l'interpeller et doit le conduire à adopter donc un nouveau rapport au réel. Alors je voudrais, entre vos compagnies aujourd'hui, explorer deux points. D'abord, pourquoi lorsque je vois quelque chose, je suis tenu d'être interpellé par ce que je vois au point de changer mes habitudes ? cet homme-là, nous disent nos sages, il devait s'abstenir de boire du vin. Mais si c'est quelqu'un qui aimait des bons cabernets sauvignons à 500 shekels la bouteille, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il devrait s'abstenir, parce qu'une femme fait n'importe quoi, et un homme et des gens font n'importe quoi de leur vie. Alors la réponse est la suivante. Elle est que je ne peux jamais rester neutre par rapport à ce que je vois. Pourquoi ? Parce que mes yeux sont en fait la fenêtre de mon âme. La bouche, P en hébreu, c'est peau, ici. Dans la nomenclature du visage, d'après la Kabbalah, la bouche, c'est le monde dans lequel je vis. Le nez, c'est l'odorat, c'est l'instance intermédiaire. Mais les yeux, c'est les fenêtres de l'âme, c'est la fenêtre de la Neshama. La Neshama, c'est la partie divine que j'ai en moi. Ce que je regarde va en quelque sorte amoindrir ou au contraire renforcer la partie divine que j'ai en moi. Lorsque j'assiste à un spectacle dégradant, même si au fond je n'ai rien à voir avec ce spectacle, j'assiste à ce spectacle, je le vois. On ne parle pas de quelque chose ici qu'on voit fortuitement. On parle ici de quelque chose qu'on a vu, qu'on a observé. On était là, on a vu, on a presque participé en tant que spectateur à ce spectacle. Eh bien, ça va amoindrir la partie divine que j'ai en moi. Et on a donc ici un premier enseignement que nos sages finalement traduisent de plein de manières, qui est de nous dire, faites très attention à ce que vous regardez, parce que la partie divine qui est en vous, eh bien, elle est directement atteinte par ce que vous captez comme image, et elle va être amoindrie, ou au contraire renforcée par ce que vous voyez. C'est la raison pour laquelle nos sages, par exemple, nous disent, dans une maison, c'est bien de mettre les portraits des tzadikim, « Ve'ayu enecha ro'ot et morecha »« Que tes yeux voient tes maîtres ». C'est bien, par exemple, d'étudier un texte de la Gemara, ou un texte du Tanakh, de la Torah, etc., en le regardant, en le lisant, au Tiot Markimot. Les lettres, elles vont nous rendre plus sages. Pourquoi ? Parce que ce que je vois influe directement sur la partie divine qui est en moi. Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qui est un enseignement également très concret et qui touche à notre psychisme et à notre fonctionnement. Actuellement, on a assisté malheureusement en Eretz Israël à deux grands malheurs, le malheur de Méron et le malheur de la Chassidoute Karlin, où une tribune s'est effondrée entraînant 200 personnes qui sont blessées et des morts. On assiste également à des affrontements, des missiles qui tombent, des affrontements à l'intérieur des villes dites mixtes ici en Israël. Et donc, on est gorgé d'images et de sensations qui sont des sensations terribles. Alors, pourquoi terribles ? Parce que le sentiment qu'on a tous, c'est qu'on a une accumulation de malheurs, c'est une accumulation de violence. Qu'est-ce qui se passe quand un individu voit ce genre de choses ? Eh bien, la partie divine qu'il a en lui, c'est son âme, elle va être amoindrie. Pourquoi ? Parce que l'émotion qu'on va ressentir, c'est terrible, c'est horrible, on ne comprend pas pourquoi cette violence, etc., elle fait que l'individu est en quelque sorte absorbé par son émotion. Et en quelque sorte, il est recroquevillé sur lui-même. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un ressent une émotion complètement forte. D'ailleurs, c'est une émotion qui va complètement l'emprisonner. Il ne va plus être capable d'avoir du recul, de réfléchir. Et donc tout le chinour, toute l'éducation qu'il a pu recevoir et qui lui apprenne à prendre un peu de distance avec les événements, à avoir une lecture de l'événement, peut se retrouver complètement paralysé. Alors, c'est la raison pour laquelle nos sages, par exemple, dans cette période, les rabbanim, les gdolim, parlent beaucoup d'émouna, parlent beaucoup de foi, parlent beaucoup de se renforcer dans l'étude de la Torah, dans l'amour gratuit vis-à-vis de l'autre, apprendre à regarder l'étincelle divine qu'il y a chez l'autre. Apprendre à le regarder différemment. En fait, on voit dans les événements qu'on vit aujourd'hui, une grande partie des enseignements qui nous sont donnés par nos rabbanim, c'est à la fois de plus étudier, c'est-à-dire de regarder nos textes, donc de mettre notre partie divine avec nos yeux dans des textes, d'accord, d'intégrer l'intelligence, mais aussi d'apprendre à regarder l'autre. D'apprendre à regarder l'autre dans tout ce qu'il a de positif, dans tout ce qu'il a de magnifique, dans tout ce qu'il a de grandiose. Apprendre combien on peut l'aider. Et vous voyez que l'apprentissage, là aussi, va être de donner, d'apprendre à notre psychisme, à notre fonctionnement, à avoir le même fonctionnement que notre âme. L'âme, elle veut donner. L'âme, elle veut partager. L'âme, elle veut aimer. Le corps, il veut prendre. Le corps, il se laisse facilement prendre, sans mauvais jeu de mots, facilement surprendre, précisément, dans des émotions terrible, négative, etc. Mais l'âme, elle veut donner. L'âme, même dans le malheur, elle veut partager. On le voit beaucoup autour de Méron, autour de Khalid, autour de ce qui se passe avec la guerre, avec le Hamas et dans les vies, etc. Les gens deviennent solidaires, les gens veulent donner, les gens veulent partager, les gens veulent être empathiques. Pourquoi ? Parce que dans des périodes comme celle-là, il y a une balance qui s'opère. D'un côté, il y a l'âme qui veut donner, qui veut partager, qui veut regarder les choses avec force, avec une force de projection également. Et il y a le psychisme, il y a le corps qui, lui, veut en quelque sorte se laisser enfermer dans ce qu'il y a de plus terrible, et donc se laisser emprisonner, et donc s'interdire en quelque sorte de bouger. Et ça, ce conflit, il est permanent dès qu'on assiste à quelque chose de terrible, comme par exemple la dégradation de la femme sota, mais comme aujourd'hui dans ce qu'on vit, on est gorgé d'images qui sont très problématiques. Alors peut-être qu'on peut donner comme conseil à tous celles, à tous ceux qui nous écoutent, regardez le moins possible les informations. Tenez-vous au courant, bien entendu, de ce qui se passe. Tenez-vous au courant, il faut toujours se tenir au courant, c'est important. Mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous n'êtes pas obligé de tout voir. Ce qui est important, c'est de cultiver l'élément divin qu'on a en nous, qui dans chaque situation nous invite à prier, à étudier, à nous améliorer dans notre rapport à l'autre, à nous améliorer dans nos midotes, dans notre comportement. Et donc justement, à utiliser nos yeux comme étant précisément le reflet de l'âme, c'est-à-dire apprendre à regarder la réalité qui nous entoure comme une réalité qui nous invite à changer, à réfléchir sur nous-mêmes et à être meilleur dans notre relation à l'autre et dans notre relation avec le divin. Last but not least, autre point qui touche à la paracha. Il y a une juxtaposition dans la paracha entre le sort de la femme sota et donc le nazir. Le nazir, c'était cet individu qui pendant 30 jours en moyenne allait s'abstenir de boire du vin et donc allait en quelque sorte adopter des mœurs plus ou moins ascétiques. Alors il y a aussi un point qui est très intéressant, cette idée que finalement le monde qui nous entoure est un monde qui à la fois nous invite à la consommation et en même temps nous oblige à la rétraction. Il y a cette dualité, il nous invite à consommer depuis toujours, depuis qu'Adam Arishon, depuis que le premier homme est arrivé, il y avait un arbre et là il y avait un serpent pour l'inciter à consommer, mais en même temps il y avait une invitation à la rétraction. Ces deux mouvements sont des mouvements pour lesquels le judaïsme préconise l'harmonie. Par exemple, les relations conjugales dans un couple, elles sont marquées par le fait qu'il y a des périodes de nida où l'homme et la femme sont séparés, et des périodes où la femme n'est pas nida, où l'homme et la femme se réunissent, y compris physiquement. La même chose quand on mange, on nous demande de jouir de la nourriture, en même temps de dire des bénédictions, avant de manger. Manger kasher, etc., de procéder à toute une série d'examens avant de manger, on ne mange pas les yeux fermés, etc., etc. La relation du juif avec le monde est une relation effectivement de séduction et une réduction de consommation, c'est vrai. Mais ça ne peut se faire que si quelque part il y a une mécanique de rétraction, au sens où, si vous voulez, on va être capable de se gérer. Cet aller-retour, il est posé en nous. Il est là, il est posé en nous entre le corps et l'âme. Mais précisément, c'est la raison pour laquelle on demande, et on le dit dans le schéma Israël, deux fois par jour, de ne pas nous promener en suivant comme ça la promenade oculaire. Ne faites pas de promenade oculaire. Ne laissez pas vos yeux vagabonder. Au contraire, soyez extraordinairement acteurs. Ne regardez pas n'importe quoi. Ne vous laissez pas aller. Pourquoi ? Parce que le cœur, les yeux voient, le cœur désire. Donc apprenons au contraire, justement pour gérer notre rapport au monde, à savoir quoi regarder et comment le regarder. Et finalement, l'enseignement de la paracha est très, très cohérent de ce point de vue-là, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière partie, on en parlera une autre fois, avec les offrandes offertes par les princes d'Israël, qui étaient toutes les mêmes, mais qui étaient habitées par une kavana, une intention très particulière, mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, on va se souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom, et surtout on va tous se souhaiter que Hachem prenne en pitié son peuple, et qu'ils mettent fin à nos malheurs, et qu'ils mettent fin à cette guerre, et que nos ennemis se taisent et arrêtent de nous agresser, et qu'on puisse être débarrassé de l'agression de nos ennemis, et de tous les malheurs aussi qui nous ont frappés ces derniers temps, Bezrat Hashem.
Amen. Ce qui me frappe au travers de ce que vous dites, puisque moi, mon métier, c'est journaliste, c'est de voir la façon dont les Juifs traitent les victimes de leurs enfants victimes, leurs familles victimes, etc. Cette volonté de ne pas montrer, justement, on essaye vraiment, on montre une photo de la personne en vie, j'ai horreur, si vous voulez, de la surenchère, etc. Mais je vois que dans ce conflit, chez nous, les Juifs, je suis presque gêné de le dire, on couvre les corps, etc. Et de l'autre côté, il y a une espèce de Je suis très choqué, moi, la façon dont on
dira, oui, cette notion de kavod hamet, de respect du mort, oui, qui est en fait un respect de la vie. Et on a en face de nous des gens qui, on le sait bien, se comportent comme des pirates et qui font commerce de la mort et qui en fait n'aiment pas la vie, ni la leur, ni celle de leurs enfants, ni la nôtre, évidemment. Il y a ici un choc culturel qui est tout à fait évident, et ce qui est désolant, c'est que dans une certaine partie de la presse occidentale et de la classe politique occidentale, on ne le voit pas. Peut-être que là-bas aussi, on a perdu aussi finalement le sens du respect de la vie et le sens du respect qui est dû aux morts.
Voilà. Je parle du Hamas, hein, moi. Je parle pas, évidemment, je ne vais pas attaquer toute une population. Compris, et tout. Enfin, je parle vraiment Hamas, de l'action des islamistes et du Hamas.
Copieusement, j'allais dire, il fait l'objet d'une neutralité copieuse, entre guillemets, de la part de certains politiques et de certains journalistes, qui est quand même assez terrible. Quand on voit ça, je pense qu'il y a là quelque chose qui doit nous interroger sur vraiment la perversion de la pensée humaine.
Et nous, continuer à agir comme ça, avec cette forme de...
Bien sûr, donc restons propres, restons propres et restons forts.
De retrait par rapport à la mort, quoi. Rav Mordechai Biton, vous qui êtes à Jérusalem, on vous souhaite, un Shabbat de paix, suivi d'une semaine qui le sera tout autant. On prie de tout cœur avec vous pour avoir ça. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, on me voit. On a l'impression vraiment que le Shabbat il est venu très vite. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué tous.
Très courte semaine, c'est vrai.
Par définition, on a eu deux, trois jours. Quoi. Maria Chadré, alors on continue à réfléchir sur notre paracha. Notre paracha, c'est Nassau. Et vous y voyez déjà la Shon Nisuin, le mariage, déjà une nouvelle idée. Et puis bon, bien sûr, la Sota, tout le monde l'a remarqué. Et vous voulez y voir des choses qui sont actuelles dans la Sota, parce que bien sûr, on a tous remarqué que c'était très archaïque, en tout cas. D'ailleurs, apparemment, ça n'a jamais été vraiment mis en place, cette histoire. Mais vous vous dites, non, si on sait réfléchir, on peut y trouver aussi des enseignements pour le couple, par exemple. Et donc, on vous écoute avec énormément d'attention, Maria.
Absolument. Voilà. Là, je voudrais utiliser une double casquette de rabbanite et de thérapeute. Et en effet, la Torah étant le livre, le mode d'emploi de notre existence, même s'il y a dedans un commandement qui est surtout, qui n'a pas l'air d'être possiblement pratiqué. Je pense par exemple au Ben Sorer Umore, le fameux fils rebelle, où là textuellement la Gemara dit c'est un cas théorique et c'est un cas pour réfléchir. Bah, là aussi, dans le cas de la Sota, le cas est tellement tiré par les cheveux, justement, que c'est vraiment un cas qui est présenté pour réfléchir à la notion de couple qui, elle, est toujours aussi actuelle. Alors, même si la présentation du cas où l'homme a averti sa femme de ne pas s'isoler, puis elle s'isole, et non seulement elle s'isole, mais elle s'isole volontairement devant deux témoins cachers, donc il faut y aller, hein. Et on dirait qu'elle a presque envie. Elle a presque envie d'amener, de tirer son mari vers le Kohen Gadol, vers le temple, et là il y a toute une procédure étonnante avec une boisson amère qui va être bue et qui va avoir un effet qui tout double, un effet destructeur ou un effet au contraire complètement constructeur et même fertile, je dirais. Et en lisant en détail ce passage de la Sota qui fait donc partie de notre Torah et qui fait donc partie de l'essence de notre vie et de notre spiritualité, eh bien j'aimerais y lire des petits messages éparpillés ici et là via le grand commentateur Rashi. Et je crois que c'est toujours aussi actuel pour les couples d'aujourd'hui, le couple moderne du 21e siècle. Alors, à quoi je pense? Je vais vous citer deux, trois Rashi très actuels. Le premier, vous savez que dans cette paracha où il y a plusieurs sections les unes après les autres, Rashi s'évertue à trouver un fil conducteur et un lien entre un sujet et l'autre. Et alors, le sujet qui précède la femme Sota, la femme donc accusée d'adultère, le sujet juste avant, c'était le sujet des maasrot, donc de la dîme, des 10% que tout individu devait amener régulièrement au Kohen. Et c'est pas du tout une expression de générosité, c'est normal, puisque, rappelons-nous, la tribu de Lévi n'a pas de terre. Et la tribu de Lévi, et ce sont les responsables spirituels, ces responsables-là, il faut bien qu'ils vivent, eh bien, ils vivent des dons des Bnei Israël qui retirent une partie de ce que leur champ a produit. Et il y a donc un passage qui nous précise qu'il faut aller vers le Kohen et lui apporter les troumottes, Chol Trouma, le Chol Kotche Bnei Israël, Yakrivou la Kohen, dit le verset, c'est le verset numéro 9 du cinquième chapitre. Et puis, juste après, on a l'impression qu'il y a, sans transition, voilà le passage de la Sota. Et là, Rashi va faire un lien étonnant, un lien audacieux entre le passage du don au Kohen et le passage de la Sota. Et il dit la chose suivante. Que vient-il d'être écrit, dit Rashi. Chaque homme, les saintetés, donc les kochim, ce qu'il donne au Kohen, eh bien, il explique, si tu gardes pour toi les dons qui devaient revenir au Kohen, par ta vie, dit Rashi, tu devras finalement te présenter quand même chez le Kohen, toi qui n'y es pas allé donc, devant lui, mais alors pour une raison bien moins agréable, c'est pour lui amener la femme soupçonnée d'infidélité, dit-il en ramenant la Gemara Brachot, page 63. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sous-tend ce Rashi ? Rashi est en train de dire que dans notre vie, il est indispensable d'avoir un lien avec quelque chose qui relève de la spiritualité. Ici, au XXIe siècle, je dirais que c'est peut-être la synagogue, c'est peut-être le cours du rabbin le Shabbat, c'est le cours sur Radio Shalom, c'est un livre qu'on va lire régulièrement et qu'on va partager à la maison, avec son épouse, avec sa famille. Un lien avec la sainteté, parce que la vie est faite de telle sorte qu'on court, on court, on court, on a des obligations, on a des factures à payer, on a toutes sortes d'obligations au travail, et on est envahi, on est littéralement englouti par nos obligations. Or, à l'époque biblique, aller au Kohen amener ses troumottes, au-delà de la nécessité de faire vivre le Kohen, il y a autre chose. Il y a tout d'un coup un arrêt sur image, où je vais aller voir, entre guillemets, le rabbin, le Kohen, le Lévi, et je vais avoir un lien, et il va s'asseoir avec moi, il va prendre un café, il va voir comment je vais lui raconter, peut-être que je vais lui raconter mes problèmes de couple ou mes difficultés avec mes enfants, et j'aurai la vie d'un Talmid Chacham, et j'aurai la vie, voilà, je serai montée au temple, et j'aurai eu ce lien régulier avec la sainteté. Donc ici, je crois que le premier élément que nous enseigne Rashi, c'est que pour avoir une vie de couple harmonieuse, il y a un premier élément qui est obligatoire, c'est avoir un lien avec quelque chose qui est Kodesh. Un lien avec la synagogue, avec le rabbin, avec un cours de Torah, avec quelque chose qui va donner du sens à mon existence. Mon existence ne peut pas rester plate et il faut qu'elle ait de la hauteur un petit peu. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on voit aussi dans ce Rashi, je crois que c'est l'idée de la générosité. Quelqu'un qui n'est pas capable de donner son maaser, ça veut dire qu'il a un rapport à son argent qui est plutôt maladif. Et dans ce cas-là, certainement aussi, la générosité qui doit exister dans le couple va sûrement être touchée. Et donc, ce couple va perdre en intensité et jusqu'à peut-être même ce soupçon d'infidélité. Donc voilà ces deux premiers éléments. Autre élément que j'ai découvert en relisant cette année la paracha de la Sota. Je n'avais jamais remarqué, mais quand on précise tout le processus qui fait qu'elle rentre, on va dire, dans le cadre d'une femme qui peut être amenée au temple, il y a une précision de la Torah. Quand elle s'est isolée avec un homme, alors qu'elle avait reçu l'avertissement de ne pas s'isoler avec cet autre homme, le verset de la Torah précise « Véné et l'âme me eine isha ». Et elle l'a fait en cachette des yeux de son mari. Une précision inutile, d'autant qu'il y avait deux témoins, sinon il n'y a pas de soupçon. Donc pourquoi préciser que c'est en cachette des yeux de son mari ? Alors le Rashi, je l'ai trouvé fabuleux. Rashi sur place dit, s'il a vu et a faim de l'ignorer, c'est-à-dire qu'il a fait semblant de ne pas le voir, mais en fait il l'a vu, il le savait très bien, les eaux ne produiront pas d'effet sur elle. C'est-à-dire que je crois qu'ici, Rashi, en filigrane, avec une finesse extraordinaire, nous livre un enseignement thérapeutique pour les couples. Il nous parle de cet homme qui feint de ne pas voir, qui voit des choses et qui fait la politique de l'autruche et qui se met des œillères et qui feint de ne pas voir des choses. Ici, Rashi est en train de dire qu'on n'en arrive pas au cas de la Sota, même si c'est un cas théorique, mais on n'en arrive pas du jour au lendemain. Il y a d'abord un couple en souffrance. Il y a d'abord une femme qui ne reçoit pas l'attention qu'elle aimerait recevoir. Il y a quelqu'un qui a des yeux, mais qui ne la regarde pas, qui voit, mais qui feint de l'ignorer. Et c'est ça qui fait que, eh bien, il va y avoir ce qui va se passer par la suite. Et enfin, le dernier élément que je voudrais tirer de cet enseignement, toujours Rashi, à la fin de la paracha de la Sota, Rashi fait le lien entre la paracha de la Sota et la suivante, qui est la personne qui fait un vœu de Naziréa. Et donc, dans ce vœu, il ne se coupera pas les cheveux, il veut grandir spirituellement, et il veut se couper des bassesses de ce monde. Il fait le vœu de ne pas se couper les cheveux et de ne pas boire de vin. Et regardez ce Rashi fabuleux, je trouve, qui pose la question du lien entre la Sota et le Nazir. Pourquoi le chapitre relatif au Nazir, je lis Rashi, fait-il immédiatement suite à celui de la femme soupçonnée d'infidélité ? Pour faire ressortir que quiconque voit cette femme dans sa dépravation, mieux vaut qu'il s'abstienne de vin. Et écoutez bien, car c'est ce dernier, le vin, l'alcool, qui mène à l'adultère. Sota, page 2. Je vais le dire autrement, il faut arrêter l'alcool. C'est-à-dire que, tout simplement, il est en train de dire que ignorer l'autre, rentrer dans une mélancolie et dans une relation, une fuite, la fuite ça s'appelle l'alcool, mais je vais l'appeler autrement aussi aujourd'hui au XXIe siècle, le travail, encore une fois, le travail jusqu'à pas d'heure,
le portable,
une fuite de la maison, quelle qu'elle soit.
Le téléphone portable,
ouais. Très bonne remarque. Voilà, on est sur nos téléphones, on est lié à 1000 choses virtuelles et on n'est pas lié à celui, celle qui est en face de nous. Donc c'est cette fuite que vient à condamner Rashi. Il dit faut arrêter l'alcool, sous-entendu, voilà, faut arrêter de s'enfuir, faut arrêter de ne pas se connecter. Donc pour dire les choses, voilà, pour les conclure un petit peu ce qu'on peut apprendre de cette paracha de la Sota, c'est que en permanence on a besoin de connexion, de partage, on a besoin d'échange. Et un couple n'est jamais un acquis. C'est une construction perpétuelle dans laquelle on passe notre temps à inviter l'autre dans notre vie, à inviter l'autre dans notre monde émotionnel, à partager les petits détails de la vie comme les grandes réflexions philosophiques. Tout cela doit faire partie du partage. Et quand il n'y a plus de partage, il y a un risque de fuite. Et quand il y a un risque de fuite, eh bien, les émotions se dispersent. Et cette dispersion peut mener jusqu'à certaines extrêmes. Et alors, l'outil, je crois, le plus important que je voudrais réhabiliter à travers votre merveilleuse antenne, eh bien, c'est l'outil du kavod. Je sais que le kavod est loin d'être à la mode, parce qu'on croit que le kavod, c'est une relation hiérarchique, c'est une relation de soumission. Et je voudrais réhabiliter cette notion, d'ailleurs à propos de laquelle le Talmud dans Yevamot, page 62, dit, donne une certitude, hein, c'est le Talmud qui signe une certitude de shalom, de paix dans les foyers, s'il y a du kavod.
Ah bah oui.
Alors qu'est-ce que ce kavod ? Le kavod, en vrai, c'est très simple. Le kavod, je le dirais en français, c'est la valorisation de l'autre. C'est-à-dire, c'est la capacité à repérer une qualité dont l'autre est porteur. Et au lieu de penser que valoriser l'autre, c'est s'amoindrir, ce qui est tout à fait faux, eh bien, on le valorise, on le repère, on le dit, on le verbalise, on peut même dire qu'on s'en inspire. C'est vrai, quand on a une personne à côté de nous qui partage notre existence et qui a justement les qualités que nous n'avons pas, c'est extrêmement inspirant, c'est extrêmement fertilisant pour la relation. Et le fait de le verbaliser et de le dire, eh bien, ça fait qu'immédiatement, cette qualité devient une qualité presque à nous deux, qui nous appartient presque à tous les deux, qui nous permet de nous hisser, de hisser notre relation vers autre chose. Et cette recette, c'est une recette à laquelle je peux dire avec certitude qu'elle fonctionne. Si on arrive à aborder, voilà, ce soir, Shabbat, le moment où il doit y avoir le shalom. On dit Shabbat shalom. Et j'entends dans mon métier de thérapeute combien de fois le Shabbat, c'est le lieu des crises. Parce qu'on se retrouve davantage. Et alors que ça devrait être le lieu de la sérénité et du bien-être. Comment faire ? Cet outil extraordinaire, il faut s'entraîner, c'est pas évident, on n'a pas toujours l'habitude de le faire. Valoriser ce que l'autre a fait. Une belle table, un bon repas, une présence auprès des enfants, une présence... une aide à l'extérieur, peu importe, on a visualisé, on a repéré une qualité, on va la signifier. Et en la signifiant, eh bien, on crée ce monde de partage, on crée cette consistance du couple, cette intériorité, et puis espérons qu'on avance tous vers le shalom d'abord chez nous, dans nos maisons. Et évidemment, je prie pour le shalom en Eretz Israël et un shalom généralisé dans nos communautés et dans notre pays, évidemment.
Bien sûr, et dans le monde. Le kavod, on pourrait, je vous écouter, hein, trouver cette très jolie définition du kavod, mais déjà le respect. Hein. Déjà le respect dans le couple, c'est déjà la base de tout, peut-être. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « je t'admire ». Je dis « mais tu peux pas dire ». Alors en plus, en couple, vous imaginez « je t'admire ». Si on se connaît depuis longtemps, on se dit « non, je vais pas lui dire « je t'admire ». Ça veut pas dire qu'on s'annihile, ça veut dire que cette qualité-là, je l'ai pas. Et je t'admire d'avoir ça. C'est bien, je t'admire. Et ça ne diminue pas l'un des deux, ça fait grandir les deux. Mayasha, il se trouve que vous êtes porteuse d'une association qui s'appelle Essentiel, qui est une association formidable, que j'ai le plaisir de suivre en tant que journaliste depuis un petit moment, et que vous allez avoir une campagne de Allodon les 30 et 31 mai. Cette association Essentiel, vous pouvez dire deux petits mots quand même pour la présenter un peu aux gens qui nous écoutent.
Bien sûr, alors de multiples projets et on en a encore plein. Alors évidemment, c'est faire porter la voix féminine alors au sein de la communauté, dans la Torah, dans l'étude de la Torah. C'est reconnecter les individus à leur identité quand ils sont en recherche de repères. C'est rentrer dans les écoles, dans les lycées et enseigner l'intimité avec une vision de Torah et de Kedusha parce qu'on a ô combien de jeunes lycéens, lycéennes qui sont perdus dans ces domaines et qui pensent que la Torah n'a rien à dire. C'est l'aide et un accompagnement pour les mariés. C'est un accompagnement pour les mariés orphelines, très particulier aussi. Ce sont des Shabbat pleins étudiants. Voilà, nous avons de multiples projets et encore beaucoup d'autres. C'est le livret de la paracha, bien sûr, qui est envoyé à plus de 2500 personnes chaque semaine. Il suffit d'en faire la demande et on le reçoit gratuitement toutes les semaines sur la boîte mail. Voilà, donc nous avons de nombreux projets et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à venir. Et donc, nous faisons notre toute première campagne pour la première fois. C'est donc le 30 et 31 mai à venir. Suffit d'aller sur Allodon et dans Allodon, chercher l'association Essentielle. Et je remercie d'avance nos auditeurs pour leur générosité. Je sais qu'on peut compter sur notre communauté.
Ben moi, je les appelle parce que je sais très bien le travail très authentique que vous faites, Mariacha. On vous entend tous les vendredis. On apprend à connaître et votre enseignement et votre vérité. Donc moi, j'appelle vraiment les auditeurs à participer à cette campagne Allodon. Puis je le dis souvent, des fois, il y a des bénévoles qui vous appellent « recevez-les bien ». Si vous n'aviez pas vraiment envie de donner 20 euros, juste moyen de comme ça de pas renvoyer des gens qui sont des bénévoles et qui sont qui font ça uniquement pour une cause qui est la plus belle des causes, celle que vous défendez. Donc on en reparlera de toute façon. Et Maya Chadret, j'espère qu'elle va réussir cette campagne Allodon pour l'association Essentielle les 30 et 31 mai. Je vous souhaite un grand Shabbat. Plein de paix, de sérénité, de respect et de toutes les bonnes choses qu'on a dit ce soir. Bonsoir à vous, Shabbat Shalom.
Merci Bernard, Shabbat Shalom. Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari, shav shokat shoyim.